Détendez-vous les cocotiers, vous êtes bien à Ambert sur Radio Super.
Le feu à Ambert.
Ici maintenant, c'est au bout de ma life, un événement conçu à mille mains avec le collectif À la croisée des savoirs, le château de Gouttelat avec le soutien de Loire-Forez Agglomération. Dans le cadre de ce festival, le collectif pluridisciplinaire Carton Plein et son labo Vieillir Vivant, en association avec Radio Super, proposent quatre tables rondes qui saisissent chacune une problématique forte autour du vieillissement. Habitat, santé et bien-être, citoyenneté et politique sociale locale. Il s'agit donc ici, avec les acteurs du territoire, Loire-Forez, d'éclairer collectivement aujourd'hui cette situation, ce qui se joue à l'échelle de notre société sur ce sujet, par la mise en valeur des initiatives locales portées par ou pour nos aînés et surtout l'écoute des histoires de vie singulières.
Vieillir vivant.
Des rencontres inspirantes pour changer de regard sur le grand âge.
Vivant.
Parler des initiatives qui font du bien.
Vivant.
Apprendre à vivre avec envie.
Vivant.
Explorer un nouvel imaginaire du vieillissement.
Vivant.
Bonjour à toutes et à tous. Voici le deuxième plateau radio qui est diffusé en direct aussi au château de Gouttelat, dans cette salle des devises, magnifique salle qui a vue sur le grand paysage face à nous. Donc on a de la chance quand même, faut le dire. Merci à Gouttelat de nous accueillir ici autour de ces sujets du vieillissement. Nous allons échanger autour de cette deuxième table ronde autour des questions de santé et de bien-être des aînés, des aidés bien sûr, mais aussi des aidants et soignants. En considérant la santé comme l'OMS le définit, c'est-à-dire que ça ne consiste pas seulement en une absence de maladie ou d'infirmité, mais qu'elle est également un état de complet bien-être physique, mental et social. Donc aujourd'hui, comment atteindre ce bien-être et cette santé dans sa globalité pour tous et tous et pour tous nos aînés? Ça, c'est un sujet que nous aborderons ici, des évolutions aussi du métier du médico-social en cours dans l'approche sensible de l'être vieillissant, dans l'attention portée au suivi personnalisé de chacun, et dans l'écoute des nouveaux souhaits énoncés ou à venir par les nouvelles générations d'aînés. Nous parlerons aussi des métiers émergents, des formes de projets qui déplacent la question du prendre soin et apportent une attention, des gestes précis et d'écoute, une qualité d'accompagnement au plus proche des singularités des personnes. Pour cela, nous accueillons autour de la table, on va dire, 5 personnes, dont 4 en représentation venues de Saint-Bonnet-le-Château. Je te laisse présenter, Mathieu.
Oui, donc nous avons tout d'abord Lynn Pouk. Bonjour. Vous êtes artiste plasticienne. Vous présentez avec Clément Gaumont, vidéaste, une installation dans le cadre de la programmation Au bout de ma life, et c'est le fruit d'un travail d'atelier en EHPAD, notamment en Noretable et en foyer résidentiel. Nous avons ensuite Madame Corinne Balajas, directrice du centre hospitalier de Saint-Bonnet-le-Château. Bonjour.
Bonjour.
Nous avons aussi Isabelle Duverger, qui est cadre de santé au centre hospitalier aussi de Saint-Bonnet-le-Château. Bonjour.
Bonjour.
Et à ma droite, nous avons donc Jérémy Dupuis. Jérémy, bonjour. Vous êtes le prof de sport de Saint-Bonnet, celui qui travaille la motricité avec les habitants et habitantes. Je crois même que votre dénomination exacte dans le jargon, c'est éducateur APA, éducateur d'activité physique adaptée.
Adapté, c'est ça.
Et enfin, nous avons Corinne Fayard, bonjour.
Bonjour.
Et vous êtes l'une des deux super animatrices de Saint-Bonnet.
Paraît-il.
Alors peut-être pour entrer dans le vif du sujet déjà, peut-être commençons par présenter peut-être ce centre hospitalier de Saint-Bonnet qui est représenté en grand nombre ici, et après nous parlerons des problématiques d'attractivité, de recrutement avec toutes les deux peut-être une voix particulière là-dessus, comment ça se passe au cœur de ce centre hospitalier.
Très bien. Donc je vous remercie de nous accueillir en tout cas à cet événement. C'est vrai que Il est peut-être important qu'on resitue le centre hospitalier qui est un établissement public de santé. Alors, on parle de centre hospitalier, mais ne nous trompons pas, notre mission est principalement médico-sociale, puisque nous avons 78 lits d'EHPAD, nous avons aussi ce qu'on appelle du long séjour, qui ressemble dans ses modalités de prise en charge à de l'EHPAD, et nous avons la dénomination de centre hospitalier parce que nous avons aussi un service de rééducation, donc dans les suites d'une hospitalisation, et donc nous faisons partie à ce titre du groupement hospitalier de territoire de la Loire porté par le CHU de Saint-Étienne. Voilà pour la présentation. Alors, ce que je voulais dire à titre préliminaire, c'est que effectivement, la problématique du bien vieillir nous concerne évidemment, puisque c'est notre cœur de métier. Évidemment, nous sommes aussi dans les mêmes questionnements que tous les acteurs hein, qui participent à la prise en charge des personnes âgées, puisque nous vivons un bouleversement de société. Ce bouleversement de société, il nous impose tous à redéfinir notre mission, notre façon d'agir. Et bien sûr, nous, en tant que professionnels, on n'échappe pas à cette remise en question et c'est l'actualité pour notre établissement puisque nous sommes en train de travailler le projet d'établissement pour les 5 ans à venir et nous avons bien sûr intégré toutes ces nouvelles orientations qu'on nous demande de nous ouvrir vers l'extérieur, d'être en appui aussi pour la politique du bien vieillir. Donc nous souhaitons être à ce rendez-vous, je voulais le dire aussi. Et la dernière remarque préliminaire que je voulais faire, c'est que il n'y a pas une vieillesse, hein, il y a des vieillesses. Et qu'évidemment, tout le monde souhaite bien vieillir. C'est le souhait de tout le monde. Simplement, la vieillesse comme la vie peut être faite d'accidents, de parcours, de maladies. Et ça, c'est aussi une réalité. Et cette réalité, il ne faut pas non plus qu'on la mette de côté, parce qu'elle est peut-être difficile à voir. Et c'est là aussi où nous avons, nous, notre rôle, puisqu'à un certain moment de la vie, pour certains d'entre nous, la réalité de la maladie et la réalité de la dépendance est là. Et on ne peut pas laisser un public âgés, des proches, sans un étayage de professionnels. Donc notre mission, elle est là. Je pense qu'on a tous, au travers des différentes initiatives qu'on entend là sur le territoire, un rôle à jouer dans ce bien vieillir. Et je crois que l'issue, effectivement, d'un travail coopératif et d'un partage d'initiatives comme vous le faites avec ces actions sont vraiment très importantes. Voilà, et donc on est en tout cas ravis avec mes collaborateurs de participer. Alors, pour en venir plus concrètement à la question, effectivement, aujourd'hui, il y a une problématique d'attractivité hein, qu'on peut en entendre effectivement beaucoup parce que effectivement, l'entrée en établissement fait peur. Hein, on l'a déjà entendu à la précédente table ronde. Elle fait peur, elle nous fait peur en tant que citoyens. Elle fait peur aussi à nos aînés parce qu'on a tous envie de rester chez soi le plus longtemps possible. Elle peut faire peur aujourd'hui malheureusement à nos professionnels et ça c'est beaucoup plus embêtant. Voilà. Donc notre réflexion aussi dans le cadre du projet d'établissement, c'est de travailler sur l'attractivité de nos métiers pour garder ces professionnels qui sont si importants. Donc je vais effectivement laisser Isabelle nous expliquer un petit peu ce qu'on a pu réfléchir à Saint-Bonnet, qui en tout cas voilà, a pu fonctionner, ou a l'air de fonctionner en tout cas.
Voilà. Oui, quelles sont les compétences que vous attendez, qu'est-ce que vous recherchez, quels sont les profils aujourd'hui qui permettent de vous ouvrir justement?
Alors les métiers du soin aujourd'hui sont pas des métiers qui attirent vraiment. C'est des métiers qui sont difficiles, qui sont pénibles, des horaires qui sont pas toujours adaptés à la vie personnelle, des salaires bon, évidemment aussi pas toujours peut-être au niveau des attentes de chacun. Mais ce sont des métiers qui sont indispensables évidemment hein, pour nos établissements et qu'on essaye nous de rendre attractifs. Alors attractifs par des projets, par des horaires. On a mis d'ailleurs en place les horaires en 12 heures sur toute la structure, ce qui est un point assez positif et qui nous permet quand même d'avoir quelques recrutements. parce qu'au moins, bah, voilà, il y a moins de jours de travail dans la semaine, plus de jours de repos, voilà, 12 heures soit, mais voilà, ça permet d'avoir une vie personnelle aussi peut-être plus importante à côté. Il y a aussi bah, des projets dans la structure, hein, des projets qu'on essaye, enfin ludiques. On a mis en place par exemple un escape game l'année dernière pour aussi bah, rendre attractif le travail et que ce soit pas toujours dans la routine et pouvoir aussi rendre le travail agréable.
Escape game. Alors, en quoi ça consiste? Expliquez-moi.
Alors, un escape game, comme voilà, vous pouvez peut-être le connaître, mais c'est un escape game qu'on a conçu évidemment avec des objectifs de soins, des objectifs qualité, des objectifs en lien avec notre certification qui avait lieu au mois de juillet. Donc, des objectifs basés sur l'hygiène, sur autour du soin en tout cas, donc où les soignants ont pu faire des équipes pour voilà essayer de réaliser des énigmes pour résoudre une problématique particulière. Et c'est vrai que ça a créé aussi du lien interservice, des liens entre les soignants. Donc ça a été assez apprécié.
C'était plutôt en lien en soignant.
Oui.
Ok. Super. Et quoi d'autre? Alors, j'ai l'impression que vous mettez plein de jeux et de pépites au cœur de l'hôpital. C'est formidable d'entendre ça.
Après, il y a aussi, je dirais, même dans le prendre soin, des projets qui peuvent donner envie aux soignants, hein, je l'espère. Comme par exemple la formation Humanitude, qui pour moi est très importante, qu'on est en train de développer sur tous les services de l'hôpital. C'est une autre manière de prendre soin. Donc on est en train de former petit à petit tout le personnel. Et ça, voilà, on tient compte de leurs acquis, on essaye de maintenir leur autonomie et de tenir compte vraiment de leurs attentes aussi.
Et cette formation Humanitude, j'en ai entendu parler tout à l'heure sur une autre table. C'est quoi exactement? Est-ce que vous pouvez nous dire?
C'est une formation qui dure 4 jours. Les soignants ont de la théorie et de la pratique pendant 4 jours avec une formatrice. Et c'est vraiment un accompagnement sur une prise en charge du soin. Alors c'est plus particulièrement au moment des toilettes, hein, mais pas que, parce que ça peut être sur l'ergonomie, les déplacements, la déambulation, les transferts, les repas. Voilà, ça peut concerner tous les soins.
Ok, c'est qu'est-ce qu'on se raconte à ce moment-là dans ce geste du soin? Peut-être que ça me fait rebondir sur Corinne. Excusez-moi, Corinne, sur votre parcours un peu personnel et sur est-ce que vous pouvez nous dire un peu vous vos formations? Je sais que vous en avez fait certaines et comment elles vous enrichissent aujourd'hui dans votre pratique au quotidien auprès des personnes de nos aînés, des personnes âgées.
Oui, alors absolument. Donc du coup, pour ma formation, c'est vrai que je suis donc animateur social depuis une 20aine d'années. Et j'ai intégré donc le centre hospitalier il y a 12 ans. Donc au départ, quand je suis arrivée, c'est vrai que c'était un petit peu la page blanche. Le service animation n'était pas présent, donc il a fallu tout créer. Donc c'était un très beau challenge. Donc du coup, avec les équipes, avec les cadres, avec les directions que j'ai pu donc côtoyer, on a mis en place donc différents projets au sein du centre hospitalier, ce qui a permis donc de développer bien entendu le lien social, d'enrichir les événements proposés au sein de l'institution, et puis petit à petit, donc on parlait tout à l'heure de la résidence autonomie, le foyer Saint-Charles, parce qu'on ne l'a pas évoqué forcément, mais c'est aussi cette résidence autonomie Saint-Charles est rattachée au centre hospitalier. Et plus récemment, donc, on propose donc des activités au sein de cet établissement avec un espace détente qui est dédié donc à des rencontres qui permet vraiment pour les personnes qui sont locataires donc de leur appartement de venir une à deux fois par semaine se retrouver, partager ensemble un moment de convivialité chaleureux autour d'un café, de parler, d'échanger. Il y a de l'entraide également. On organise des repas aussi, des repas festifs. Sur l'autre table ronde tout à l'heure, une personne expliquait tout ce qui était donc important autour de l'alimentation. Et je rejoins pleinement cette idée, car du coup, nous avons encore fort à faire avec des personnes qui sont des vrais cordons bleus, qui ont cette histoire de préparer, cette envie de faire, ce besoin de continuer à exister à travers la cuisine, le partage, se retrouver. Donc ça, c'est quelque chose que l'on vit au quotidien. Et puis, bien entendu, les activités qui sont proposées au centre hospitalier donc sont ouvertes donc aux personnes qui sont au foyer résidence Saint-Charles. Donc, ils peuvent venir à toutes les activités qui sont proposées, que ce soit autour de la musique, autour de la médiation animale. Nous avons également une mini-jument qui vient tous les 15 jours donc au centre hospitalier. Donc ça permet vraiment pour les résidents de retrouver un moment de douceur, un moment d'exception, un moment de partage unique. Donc voilà, toutes les activités qui sont proposées sont vraiment ouvertes à tous les résidents. On a des personnes qui sont très moteurs, hein, qui apprécient énormément. Et puis en lien avec Jérémy également, qui propose donc des activités de gymnastique adaptées. Donc on se partage des temps sans jamais se gêner, mais on a chacun nos groupes, si je puis dire. Peut-être que...
Merci pour cette présentation étayée de vos propositions. Mais moi, je voulais revenir un peu sur votre formation, sur votre parcours professionnel, savoir comment, qu'est-ce qui vous a guidé, qu'est-ce qui aujourd'hui, quelles attentions... Voilà.
Mon parcours professionnel, c'est vrai que je n'ai pas toujours été dans le secteur social. Auparavant, j'étais dans le soin. J'étais donc assistante dentaire diplômée. J'ai travaillé à la fois en chirurgie, en implantologie et en orthodontie. Et ensuite, à 37 ans, j'ai eu envie de reprendre les études pour vraiment donner un sens à mon travail et apporter dans mes missions, quelque chose qui va peut-être de la vocation. Je ne sais pas comment on pourrait l'exprimer, mais pour moi, c'est important. C'est important d'être en plus au service des personnes âgées. Ça correspond pleinement à mes valeurs et je suis vraiment très épanouie dans ce que je fais et je porte cela au quotidien. Je ne sais pas si ça correspond vraiment à ce que vous souhaitiez entendre.
On m'a glissé que vous aviez aussi fait une petite formation d'accompagnement à la fin de vie.
Bien entendu.
La sophrologie,
absolument. Une formation en sophrologie spécialisée pour les personnes âgées. Donc, ce sont des temps que je mets en place en petits groupes tous les 15 jours. Alors, c'est vrai que ça apporte énormément beaucoup d'apaisement, beaucoup de détente pour les personnes qui sont volontaires et qui viennent à mes groupes. Et puis, bien entendu, l'accompagnement de fin de vie. Alors là, nous ne sommes plus dans le côté animation, bien entendu. On est dans l'authenticité des échanges. C'est se mettre à la portée de la personne, aller à son pas. Le respect donc de ce qu'elle a vécu, là où elle en est, l'accompagner, l'écouter, rester avec, c'est un temps à part, l'accompagnement de fin de vie.
Donc une animatrice au complet là, magnifique. J'ai envie de dire, au-delà de la sophrologie, c'est quand même chouette de quoi, voilà, c'est au-delà d'une animation et je trouve que c'était assez intéressant d'avoir ce parcours là qui commence à nourrir aussi l'hôpital, je pense aussi, de cette ouverture là. Pour rebondir, Lynn, justement, quel rapport vous à aux aînés? Quand vous êtes, Ça fait un moment que vous travaillez dans différents espaces dédiés aux aînés. Quels sont-ils et comment vous êtes venu sur ce sujet-là et voilà. Vous pouvez me présenter un peu tout ça.
Alors, j'ai été invitée donc, à 3 reprises par Goutla à intervenir ici dans le forêt en accueil de jour et à l'EHPAD de Boin et de Noirétable et de Tarare, avec surtout auprès des personnes atteintes de troubles cognitifs. L'idée, c'était de venir avec... en tout cas, les 2 premières fois, j'ai présenté une œuvre. Donc, c'était de diffuser une œuvre artistique au sein d'un espace dans lequel il n'y en a a priori pas trop d'œuvres artistiques. Voilà. Pour que ces personnes aient aussi accès à des propositions un peu originales. J'ai un travail particulier sur la dimension tactile du son et du toucher. Et du coup, l'idée, en discutant avec Goutla, ça a été aussi de proposer, en lien avec la présentation de l'œuvre, qui est arrivée à la fin des ateliers, une série de de propositions autour de la question du toucher. Alors, juste historiquement, j'ai commencé la première série d'ateliers, s'est finie 15 jours avant le premier confinement. Et du coup, c'était une période spéciale pour parler du toucher, malheureusement. Ensuite, j'en ai refait une série au milieu, donc avec des réglementations un peu plus particulières, mais qui étaient quand même du coup très très bienvenues, et de pouvoir ouvrir le langage par rapport à ça. Et une troisième série qui était cet automne, et qui a abouti à une création donc en collaboration avec le vidéaste réalisateur Clément Gaumont, qui vit sur le territoire. Moi, je suis de la Drôme, et où on a... moi, j'ai mené les ateliers sur le toucher, donc on aborde la chose avec le groupe sous différents aspects. Ça peut être par du vocabulaire, ça peut être par des anecdotes. Enfin, ça va être forcément aussi des anecdotes personnelles, donc l'expression de soi, aussi de choses assez intimes, le fait de toucher plein d'objets en aveugle. Pour essayer de remettre des mots sur des sensations, et puis ensuite de les emmener dans un processus de création d'objets tridimensionnels. Mais d'abord, on passe par la 2D, on trace les contours des corps des participants sur une grande feuille. Tout ça, vous pourrez voir là-haut dans l'installation, voilà, ou super. En tout cas pour la radio... Pas là-haut, mais mais voilà. Et puis il y a du dessin, ça amène à un grand dessin collectif, donc qui est du coloriage, mais un temps vraiment commun, de complicité, d'échanges, beaucoup de rires, beaucoup de plein de choses, de mouvements, de se tenir sur une jambe, de choses que peut-être on fait plus trop.
Et les soignants prennent-ils part à cette œuvre?
Voilà, et les soignants prennent part quand ils peuvent, quand ils sont pas... des fois, je les arrête un peu dans leur course, mais oui, en tout cas, au moins l'animatrice, souvent des aides-soignantes, psychomotes qui sont venues aussi des fois... Et même il y a eu du à Boin, ça a pas mal circulé, que le personnel est passé voir aussi, passé voir l'installation audio-tactile et plus que voir, même se poser dedans, parce que je pense que vous parliez des endroits de pour se reposer, et je pense que le personnel en a autant besoin que.
Mais c'est magnifique.
Voilà,
ça.
Et de aussi pouvoir trouver des moments de repos avec les seniors, de trouver des situations dans lesquelles on peut avoir une interaction en étant dans un truc assez cool tous les deux ou tous les 5 quoi, à plusieurs, voilà. Enfin, et ce qui, en tout cas, les différents retours que j'ai pu avoir, en dehors du fait que ça a pu libérer la parole pour certains soignants, notamment autour de ce qu'ils ont subi dans leur métier pendant les confinements, Je pense où il y avait vraiment un grand besoin de libération de la parole. C'est aussi des moments où ils peuvent d'un seul coup découvrir les résidents vraiment sous d'autres coutures et d'être parfois très très surpris de ce qu'ils arrivent encore à faire, comme par exemple des personnes qui sont quand même assez avancées dans la maladie et qui, quand je leur propose une aiguille et du fil pour fermer les dodus, donc les dodus c'est les grosses peluches faites à partir des silhouettes des corps des gens, des participants, et ben d'un seul coup ils enfilent une aiguille et puis bon, ils font des points, ok, il n'y a que 5 points sur 10 cm, mais c'est pas grave, ils l'ont fait et c'est super, ils passent un bon moment, ils partagent, et voilà. Et en fait je sais que les premières fois où j'ai pu faire des interventions en EHPAD, je me disais oh, ça va être super triste, et en fait c'est beaucoup de joie. Beaucoup de joie, beaucoup de... Et pour moi, c'est aussi une école de la vie, en fait. Et c'est vraiment dans les deux sens. C'est-à-dire, moi, j'amène des choses, mais moi, il m'amène beaucoup aussi. Voilà.
Merci, Lynn. Qu'est-ce que ça vous inspire, alors, Jérémy ?
Lynn parlait du mouvement, et c'est vrai que c'est la base de mon métier, le mouvement. Donc, je suis, comme vous l'avez dit, éducateur en activité physique adaptée. Donc ma formation, c'est une formation parallèle aux professeurs de PS qui sont dans les collèges et les lycées, avec une composante handicap très général. Et ce qui nous concerne ici, c'est le handicap entre guillemets du troisième âge. Donc ma mission au centre hospitalier de Saint-Bonnet, c'est de proposer de l'activité physique aux résidents et aux résidents de la résidence autonomie Saint-Charles. Donc, de proposer une activité physique dans un but d'entretenir les capacités physiques, musculaires, articulaires, toujours dans une optique de préserver l'autonomie chez la personne, chez le résident de l'EHPAD. Donc, je propose des ateliers de gymnastique douce, de gymnastique d'entretien.
Vous proposez de la couture aussi maintenant ?
Non, je propose pas de la couture parce que faudrait que j'apprenne à coudre avant de pouvoir apprendre à coudre à quelqu'un. Mais
ça se réfléchit.
Voilà, c'est ce que j'allais dire. Peut-être
apprendre à coudre.
Peut-être
qu'on peut apprendre beaucoup de choses.
Voilà, c'est ça. exactement. Non, je propose pas de couture. Je propose plutôt des activités physiques, de gymnastique. Le but est de mettre en mouvement les corps de ces personnes. Qui sont et de leur faire découvrir ou redécouvrir toutes les sensations qu'ils ont eues pendant leur vie, pendant leur jeunesse, toutes ces activités, tous ces gestes qu'ils ont pratiqués toute leur vie, qui quand ils arrivent en EHPAD ou en résidence, ils font moins parce que c'est des personnes qui sont là pour qu'on prenne soin d'eux, pour qu'on les aide. Parfois on a tendance à faire à leur place. Et c'est pas le but du tout. C'est pas le but du jeu du tout d'une structure comme les nôtres. Le but du jeu, c'est que les personnes prennent soin d'elles, fassent par eux-mêmes. Et nous, on est là pour les aider à faire. On n'est pas là pour faire à leur place. On est là pour les aider à faire. Et c'est là que je m'inscris. Le but du jeu, c'est d'arriver à aider la personne à trouver les clés, à trouver les bonnes techniques pour arriver à faire, à continuer à faire. Donc après, je propose pas de couture, mais je propose par exemple des activités au niveau de la motricité fine qui pourront permettre dans un second temps de faire de la couture, de continuer à faire de la couture. Malgré un corps qui vieillit, malgré un corps qui est moins apte à faire ça. Donc plus longtemps on arrivera à pratiquer avec eux, à faire pratiquer des activités physiques, des activités motrices, plus longtemps ils seront capables d'être autonomes et de pratiquer toutes ces petites activités, petites ou grandes activités qui ont fait leur vie et qui continuent et qui doivent continuer à faire partie intégrante de leur vie.
C'est sûr, même marcher, j'imagine. Voilà,
marcher, C'est la base de tous nos mouvements. Donc je suis là entre autres pour continuer à les faire marcher, même quand c'est difficile, même quand le corps fait mal. Il faut continuer à marcher, il faut continuer à pratiquer de l'activité, une certaine activité physique. Alors adaptée, parce qu'on peut pas, on peut plus faire du sport, on peut plus jouer au basket quand on a 95 ans, on peut plus jouer au volleyball, mais il y a des activités qui peuvent être adaptées. Et quelqu'un qui a été sportif entre guillemets toute sa vie souhaite en général continuer à l'être pendant sa vieillesse. Alors nous, nos résidents à l'EHPAD de Saint-Bonnet-le-Château, c'est des personnes qui ont vécu toute leur vie, pour la majorité en tout cas, dans un monde paysan, un monde ouvrier. Donc ils ont eu très peu de loisirs finalement. Donc pour ceux qui ont travaillé 6 jours, 7 jours sur 7 jours sur 7 pendant toute leur vie, qui n'ont pas forcément eu de loisirs, l'arrivée en EHPAD peut leur permettre de leur faire découvrir quelques activités physiques qui n'ont pas eu l'occasion de pratiquer pendant leur vie, pendant leur carrière. Et je suis là aussi pour ça, et je constate que même à 80, 85, 90, 95 ans, on peut toujours acquérir des compétences. On peut toujours découvrir des choses, découvrir des capacités qui peuvent nous servir, qu'on peut mettre en application au jour le jour, même à 90, 95 ans.
Merci beaucoup, Jérémy. Je me fais un peu gardien du temps. Je vous propose une petite synthèse pour clôturer cette discussion. Donc, on a pu voir que malgré les difficultés que traversent ces établissements, ils sont en pleine transformation, notamment avec ces importances de projets d'établissement qui permettent à tout le personnel d'être sur un pied d'égalité sur au moins certaines formations, dans le respect de l'intimité des personnes, notamment avec Humanitude, dont on a parlé tout à l'heure, et que on a parlé aussi de l'importance de la coopération entre acteurs, dans les équipes aussi, l'importance de l'intervention d'artistes, de personnes extérieures aux établissements pour aussi décaler, casser un peu les rythmes qui peuvent être aussi très soutenus pour les soignants-soignantes. Et puis, en fait, au-delà du prendre soin, c'est aussi l'envie de, donc dans les soins, dans la diversité des soins qui peut y avoir, hein, c'est aussi l'envie de remettre ces personnes au cœur de leur choix, selon leurs souhaits, et les aider à avoir une vie sociale, une vie aussi culturelle qui reste riche et comme elle a pu l'être tout le long de leur vie. Et donc, c'est comment on fait aussi ressortir leurs envies, leurs désirs, et que ces personnes restent dignes jusqu'au bout de leur life. Donc, ce sera le sujet de la prochaine table ronde que nous retrouvons dans un quart d'heure, après une pause musicale et des pauses de discussion sur le forum, avec la thématique de vieillir actif et citoyen de la société.
Vivant.
Des rencontres inspirantes pour changer de regard sur le grand âge.
Vivant.
Parler des initiatives qui font du bien.
Vivant.
Apprendre à vivre avec envie.
Vivant.
Explorer un nouvel imaginaire du vieillissement.
Vivant.